Ouais, quand nous on est convoqué par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va.
Je pense que les responsables politiques ne peuvent pas s'asseoir sur la loi, ne peuvent pas se considérer comme au-dessus de la loi.
Que la justice soit à deux vitesses, ce n'est pas une découverte originale.
Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, écrivait La Fontaine dans Les Animaux Malades de la Peste. 4 siècles plus tard, la monarchie est certes abolie, mais la justice reste-t-elle plus clémente avec les puissants qu'avec les miséreux? Au mois d'avril 2017, la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux de condamner à la prison ferme un SDF qui avait volé pour 20 euros de nourriture dans un supermarché avait choqué l'opinion publique quand quelques mois auparavant, Christine Lagarde, l'ancienne ministre de l'économie, avait été condamnée, elle, dans l'affaire Tapie, mais dispensé de peine. Pourquoi des Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany ou Charles Pasqua n'ont-ils jamais mis un pied en prison alors que le moindre petit dealer de drogue purge des peines pouvant aller jusqu'à plusieurs années? Bonjour Alain Blanc.
Bonjour.
Vous êtes magistrat honoraire, ancien président de cour d'assises et vice-président de l'Association française de criminologie. Est-ce que la justice est de facto une justice à deux vitesses?
Les exemples que vous avez cités déjà laissent penser que l'approche est celle qu'on pourrait qualifier autrement de justice de classe. C'est-à-dire, en gros, les pauvres sont plus sévèrement punis que les riches. C'est une des approches. Alors, il faut distinguer ce qu'on peut qualifier comme une différence liée à l'appartenance de classe, mais qui est liée aussi aux problèmes posés par différents types de délinquance. Si vous voulez, par rapport à l'ordre public, ça peut choquer. On est évidemment tous choqués par la décision dont vous parlez, là, du SDF qui va en prison. Et si on la compare en plus à des puissants de ce monde, c'est moralement choquant. Bon, après, on peut essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. Alors, la première chose que je voudrais dire quand même, c'est que l'inégalité par rapport à la justice, elle existe par rapport à l'ensemble des droits, si je puis dire. Si vous prenez la population pénale dans une prison, par exemple, c'est évident qu'il y a une population en grande majorité précarisée, et que c'est cette précarisation qui fait que, ayant peu de possibilités de se débrouiller dehors après une infraction, pour ne pas récidiver, la tendance des juges est effectivement de les mettre en prison. On peut considérer ça comme contestable, mais c'est l'une des explications.
On peut donner quelques chiffres à ce propos. Les personnes détenues en France, plus d'une personne sur deux est en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est évidemment très dissonant par rapport à ce qu'est la moyenne nationale.
De fait, il y a des pauvres et riches.
Il y a plus de pauvres en prison que de riches.
Oui, mais l'explication, encore une fois, qui est une explication qu'on pourrait qualifier pompeusement de sociologique, mais que je renvoie simplement à l'une des fonctions de la justice pénale et de la prison, c'est de mettre à l'abri un certain nombre de gens en ce qui concerne la prison pour les empêcher de récidiver, et qu'on peut imaginer pour quelqu'un qui a un travail, pour quelqu'un qui a une famille dont on peut penser qu'il risque pas de récidiver tout simplement parce que c'est un accident. Bon, voilà la réponse, ça peut ne pas être la prison, et souvent ça n'est pas la prison. Ça peut choquer parce qu'il y a un mort, par exemple, même si c'est un mort involontaire, alors qu'un vol dans un supermarché, c'est parfaitement scandaleux. En général, quand c'est le cas, quand même, il y a un casier judiciaire avec un itinéraire, un parcours de délinquance, même si ça n'est pas grave, encore une fois, je ne justifie pas la prison, mais ça explique le souci des juges de prévenir la délinquance d'une certaine manière et d'assurer une forme d'ordre public, mais qui est effectivement inégalitaire.
Et puis, il y a la justice qu'on appelle des cols blancs, des personnalités publiques, politiques. J'évoquais Christine Lagarde, qui a été condamnée dans une affaire de favoritisme et dans l'affaire Tapie, mais dispensée de peine. On peut évoquer plus récemment l'affaire de Jérôme Cahuzac, qui a été condamné à une peine, mais qui lui permet, en fait, à qui on essaie de faire en sorte qu'il ne mette pas un pied en prison. Ça, ce sont des choses qui sont ressenties de manière très forte par l'opinion publique, Alain Blanc.
Oui, absolument. Je ne veux pas rentrer dans le détail des personnes que vous avez citées.
Il faut rappeler qu'un détenu sur trois en France, à peu près, est en détention provisoire aujourd'hui. La question, c'est de se dire qu'effectivement, on comprend que pour des personnes qui sont mal insérées, qui sont sans domicile fixe, le placement en détention provisoire permet d'avoir la personne sous la main. C'est-à-dire pour... vous n'êtes pas très convaincu. Quand on a beaucoup d'argent, on peut aussi plus facilement échapper à la justice.
Avoir sous la main quelqu'un qui a volé 20 euros, ça ne me paraît pas une priorité. Vous savez, il arrive aussi que des juges décident en fonction d'autres critères. Vous avez un juge célèbre en France, mais ça remonte au début du siècle, ou même à la fin du 19e siècle, c'est le juge Magnot qui, pour une femme qui avait volé une miche de pain pour nourrir ses enfants, avait construit le concept d'état de nécessité et dit qu'il n'y avait pas d'infraction, parce que quand on vole du pain et qu'on n'a pas d'autre solution pour nourrir ses enfants, il n'y a pas de vol.
pour parler d'un cas plus concret, de celui de Charles Pasqua, qui a été condamné dans plusieurs affaires et qui n'a pas mis de sa vie une seule fois les pieds en prison. Est-ce que ça vous semble normal? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre?
Non, mais Pasqua, je ne peux rien vous dire de particulier, parce que je ne sais pas. Si, il y a une chose quand même qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que pour un certain nombre d'hommes politiques ou de célébrités ou de gens qui ont énormément de moyens, bon, le recours à l'utilisation de toutes les procédures dilatoires à travers les nullités et autres sont des choses qui sont connues. C'est-à-dire multiplier les recours, bon, pour faire en sorte que la décision vienne beaucoup plus tard. Sur le plan de leur réputation, les faits sont un petit peu oubliés. Bon, on l'a vu pour le président Chirac à certains moments.
Ce qui est aussi le cas pour l'ancien président Sarkozy sur le dossier de Pygmalion, où ça a été dans l'actualité il y a peu de temps.
Mais il est présumé innocent.
Oui, il est présumé innocent, évidemment, puisque la décision de justice n'a pas encore été rendue. Ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'on dit finalement les hommes politiques ou les personnalités politiques, puisqu'il n'y a pas que les hommes, ne font pas de prison parce qu'ils sont mieux défendus, parce qu'ils ont des batteries d'avocats. Donc ce serait tout ça une question de moyens, une fois de plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est mieux défendu par des avocats spécialistes que par des avocats commis d'office ?
La différence, elle n'est pas entre les avocats commis d'office et les autres avocats. Il y a de très bons avocats qui consacrent du temps pour des raisons qui sont liées peut-être aux salaires qu'ils perçoivent, mais aussi par rapport à l'intérêt de la cause ou à leur conviction ou à leur engagement personnel. Et puis, il y a des avocats moins bons.
Mais
il y a des gens qui sont moins faciles à défendre. On n'est pas tous égaux dans un commissariat en garde à vue. Il y a des gens un peu intelligents, malins, filous. Bon, c'est ceux qui passent à travers les mailles du filet, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux. Et puis, il y en a qui sont un peu plus démunis et qui ramassent plus. Oui, ça. C'est...
Est-ce qu'il y a aussi, peut-être de facto, une aura du pouvoir, une considération qui est prise par les juges de la carrière politique, de ce que ça signifie de condamner à de la prison ferme une personnalité politique ? Alain Blanc ?
La prison ferme, c'est la seule sanction dont on parle et qui frappe l'opinion. Mais l'inéligibilité, par exemple, est une sanction qui est lourde pour un homme politique.
Et qui est prononcée fréquemment ?
Ah oui, qui est prononcée assez fréquemment, oui.
Quid également des inégalités territoriales ? Est-ce qu'on juge de la même façon quand on est à la cour d'assises de Paris que quand on est à la cour d'assises de Bobigny ou de Nanterre ?
Et puis, quand j'étais aux assises, nous étions 12 présidents. Est-ce que chaque président... puis après, il y a les jurés, puis après, il y a les départements. Moi, je peux vous dire qu'aux assises... On ne jugeait pas de la même manière les viols dans le département où la cour d'assises est à Auxerre, dans l'Yonne, et à Bobigny ou à Paris. Les jurés, et c'est d'ailleurs logique et souhaitable, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, si le peuple est là, il faut que ce soit le peuple du territoire. La Seine-Saint-Denis et le Nord, qui sont des départements plus pauvres, ils rendent des décisions et ils constatent que leurs décisions ne sont pas exécutées parce que les moyens du Conseil général, les subventions aux associations, les moyens pour les associations d'avoir des salariés qui prennent en charge les mineurs en question, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence, ça veut dire qu'il y a des enfants qui restent dans des situations dramatiques pendant beaucoup plus longtemps, alors qu'à Paris, ça ne se passe pas comme ça. Et dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre, compte tenu du budget du Conseil général des Hauts-de-Seine, c'est pas non plus du tout pareil. Et ça, c'est choquant.
Une personne sur deux en France dit ne pas avoir confiance en la justice. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui peut être ressenti comme étant une justice à deux vitesses, c'est-à-dire une justice plus clémente avec les forts et plus sévère avec les faibles, ça contribue à la défiance de la population envers la justice française ?
Cette institution doit être critiquée quand elle le mérite. Mais j'ai regardé les chiffres il n'y a pas très longtemps. La France, c'est le pays qui consacre en Europe le moins de moyens économiques à son fonctionnement de tous les pays d'Europe. On voit que depuis un certain nombre d'années, ça se rattrape, mais ça se rattrape tout doucement. Ça veut dire moins de juges, moins de greffiers, moins de moyens matériels. Dans les départements les plus pauvres, les moyens sont moins importants et les gens font avec. On se révolte rarement contre la justice.
Merci beaucoup Alain Blanc. Je rappelle que vous êtes magistrat honoraire, ancien président de cour d'assises et vice-président de l'Association française de criminologie.
Merci à vous.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.